Cause commune à Paris, 93.1 en FM, sur le bloc 9A du DAB+, et partout ailleurs, causecommune.fm et sur l'appli Cause commune.
Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause commune.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Cette émission, elle n'est pas en direct. Cette semaine, inscrire le vélo dans le quotidien. Mais avant, merci pour votre fidélité, vos messages, vos suggestions. Merci à vous, fidèles au poste, au podcast. Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui portent ce projet de radio associative. Cause commune est bien une radio associative et nos revenus, nos ressources sont les subventions, des pots de chagrin et les dons. Vos dons, ils sont déductibles d'impôts. On a besoin de votre soutien financier, vraiment 1 euro, 10 euros. Faites comme vous voulez, on prend tout. Promis, cet argent ne me servira pas à m'acheter un vélo plus beau, mais à financer les frais de fonctionnement de l'association. Mais revenons au vélo dans le quotidien. Aujourd'hui, au micro, monsieur Jean-Marie Tétard. Il est maire d'Oudan, il est ancien député, conseiller départemental et engagé de longue date dans les collectivités locales. Jean-Marie Tétard a une vie politique riche et dense. Il fut député, vice-président du conseil régional des Yvelines. Né à l'orée des années 50, il nous raconte la place spéciale, je crois, du vélo dans sa vie et son parcours politique. Bonjour Jean-Marie, merci d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Oui, merci de m'accorder cet échange.
Eh bien, je vous en prie. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Tétard, c'est la place du vélo dans votre vie. Et là, je ne m'adresse pas ni à un élu, ni à un ancien député, mais aux citoyens.
Écoutez, lorsque j'étais gamin, juste après les années 50, un peu plus tard, je vivais dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Mes parents étaient ouvriers agricoles et je partais sur les porte-bagages avec eux pour aller... éclaircir les betteraves ou faire la moisson. Donc pour moi était le vélo d'abord sur le porte-bagages et puis ensuite avec le mien pour les déplacements quotidiens en accompagnement de mes parents.
Donc c'était déjà du vélo taf quand vous alliez vous occuper des betteraves?
Le mot n'existait pas, c'était le seul moyen d'ailleurs de se déplacer.
Oui, et donc ça veut dire qu'après le porte-bagages, assez vite vous avez eu votre propre vélo pour vous déplacer et acquérir un peu d'autonomie?
Ah oui, c'était le cadeau traditionnel de la communion solennelle.
Oui, d'accord. Vous vous souvenez de votre premier vélo d'ailleurs, Monsieur Tétard, ou pas du tout?
Il était vert.
Oui, d'accord.
Je disais un vélo de course.
Et c'était un vélo de course parce qu'il avait le guidon recourbé vers le bas.
Le guidon recourbé, voilà, c'est ça.
Et quand vous étiez jeune, le vélo, c'était un moyen de déplacement, un moyen de transport. C'était aussi un moyen de vivre des moments sociaux avec vos copains locaux et vos copines locales.
On rejoignait le terrain de foot en vélo. C'était le moyen de déplacement, d'autonomie naturelle des jeunes. Oui. Parce qu'on n'avait pas honte de faire du vélo non plus à cette époque-là.
C'est intéressant ce que vous dites. Parce que là, vous croyez qu'aujourd'hui, un jeune qui a, j'en sais rien, la communion solennelle, c'est 12-13 ans, vous pensez qu'il a honte aujourd'hui de faire du vélo?
D'abord, il y a moins de communion solennelle.
Oui, ça c'est vrai.
Je ne sais pas si on n'offre pas des tablettes à la place d'offrir un vélo.
Peut-être.
C'est idiot parce que finalement, offrir un vélo à un ado, c'est lui offrir le premier instrument de liberté. Alors que la tablette, c'est le premier instrument de
d'emprisonnement. Oui. Oui, mais ceci dit, alors aujourd'hui quand même, je voudrais revenir sur cette notion que vous donnez, on n'avait pas honte de faire du vélo. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez quand vous discutez avec les ados qui sont sur votre territoire, sur Oudan, que le vélo, c'est sympa, mais enfin c'est un peu ringard. Est-ce que par exemple, ils sont plus attirés par la trottinette à votre avis?
Ils sont plus attirés par la trottinette, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est à la mode ou si c'est un mode moins actif.
Oui, un truc un peu plus de feignant. Mais est-ce que ça veut dire justement...
C'est moins cher, il y a moins à le garer, on peut l'emmener, enfin c'est un caractère un peu pratique aussi.
Oui. Est-ce que sur la mairie de Oudan, mais c'est intéressant, je ne pensais pas qu'on allait partir sur ce credo-là, mais c'est pas grave, c'est très bien. Est-ce que sur la mairie de Oudan, vous mettez à disposition des vélos en libre-service et aussi des trottinettes en libre-service?
Non, c'est trop petit. Nous sommes qu'à 3700 habitants. On ne peut pas se permettre de gérer un système comme cela. Pour l'instant, nous en sommes surtout à faire, au niveau de la communauté de communes, le schéma cyclable, à faire les premières infrastructures cyclables en site propre qui vraiment peuvent sécuriser et donner confiance, parce que c'est le résultat d'une enquête que nous avons fait auprès de la population. En gros, la question, c'est à quelles conditions vous referiez du vélo, ou vous en feriez, pour aller au boulot, pour aller à la gare, pour aller faire vos courses. La réponse était nette, à condition qu'on ait des itinéraires, des infrastructures confortables, continues et sécurisées.
Donc, voilà, donc vous leur posez la question.
C'est assez simple comme réponse.
Oui, oui, c'est assez simple. Mais, ça veut, mais la réponse, c'est une réponse très simple, mais la mise en œuvre est très compliquée, parce que organiser et mettre en place des itinéraires cyclables qui maillent très bien le territoire et qui maillent aussi très bien, la liaison entre les différentes communes, pour le coup, c'est des chantiers potentiellement titanesques.
C'est titanesque, mais c'est... quelque part, je dirais que la vraie question est de savoir quel niveau de sécurité on veut donner, parce que en milieu rural, notre réseau cyclable sera une composition de petites routes tranquilles qui existent encore, largeur 3 mètres, moins de 200 véhicules jour. Donc ça, on peut, avec une bonne signalétique et en dégageant les points noirs de non-visibilité, on peut les utiliser. On peut utiliser ensuite des bandes cyclables sur des routes tranquilles, on en a très peu, et on peut utiliser des pistes cyclables. Mais les pistes cyclables en milieu rural, il faut aller acheter du terrain agricole.
Et là,
pas dans l'air du temps, ouais. Je vois pas l'intérêt.
Ouais.
Et donc la seule vraie solution, c'est l'utilisation des chemins ruraux, des chemins qui existent depuis tout le temps, que nos ancêtres ont fait sur la plus faible pente, c'est-à-dire que le chemin rural était fait suivant la plus faible pente et quelquefois à l'abri du vent, sous la crête.
Ouais.
Et donc c'est parfait pour le vélo. Et donc ce sont des fonciers qui appartiennent aux communes, ces chemins ruraux. Il faut simplement trouver le moyen d'un accord avec les agriculteurs avec qui il faudra partager l'utilisation de ces chemins ruraux. C'est ce que nous, après de belles confrontations, c'est ce que nous sommes en train de faire, et nous réalisons la première liaison entre trois villages. Ça fera 9 km en tout de chemins ruraux aménagés.
Et là, pour le coup, c'est un des espaces qui sont donc aujourd'hui qui sont privés ou sur lesquels on peut avoir des automobiles?
Il n'y aurait comme seul automobile, la définition de la voie verte.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire, seuls les ayants droit exploitants agricoles, la seule différence, c'est que on pourra y rencontrer, au moment de la moisson, une moissonneuse-batteuse.
Oui.
Mais ce n'est pas grave, on les rencontrait déjà sur les chemins de 3 mètres de large, sur les routes de 3 mètres de large.
Et donc, ça veut dire quoi?
Mais c'est...
Oui.
Oui.
Mais ça veut dire que l'accès, il est autorisé. Comment est-ce qu'on interdit l'accès à une voiture? C'est des plots qui, il faut une télécommande. Il y a une caméra.
On peut pas mettre de plots parce que la négociation est très difficile. Mais je vois pas l'intérêt d'une voiture, si vous voulez.
Oui.
Actuellement, ces chemins sont utilisés comme ils sont défoncés, ils ont des ornières, ils ont de l'eau qui reste je ne sais pas combien de temps. C'est la piste rêvée pour les quads, les motos qui veulent rentrer plein de boue partout. Demain, si c'est une piste cyclable, surtout qu'on va faire deux bandes d'enrobés, je vois pas l'intérêt des quads d'aller là-dessus. Bon, et les voitures le feront peut-être une fois par curiosité, mais je vois pas l'intérêt non plus pour eux.
Oui, donc en gros,
Nous avons pris le pari de la confiance par rapport à cela, parce que de toute façon, les agriculteurs ne voulaient pas descendre à chaque fois du tracteur pour ouvrir une barrière.
Bien sûr, bien sûr. Parce que pour eux, c'est une voie pour travailler.
Voilà, c'est ça. C'est leur voie du taf, comme on dirait aussi.
Oui.
Et donc, il faut partager. Voilà. Donc, on prend tout cela comme une véritable expérimentation, parce que nous avons eu un certain nombre d'obstacles qui ont été levés par les agriculteurs. Un obstacle qui était de dire il y a de l'herbe sur ces chemins, vous allez détruire la nature. Bon, on a fait des inventaires, la nature y est vraiment très pauvre, puisque ce sont des chemins compactés depuis très longtemps,
oui.
Et qu'on ne trouve que des pissenlits, des orties, du plantain, etc. Donc ça, on a fait la démonstration, et j'ai même proposé que dans ce cas-là, on replante des, mais ça n'est pas dans l'air du temps, au moins dans cette région. Le deuxième argument, c'était vous allez imperméabiliser.
Oui.
Bon, les chemins sont tellement compactés que lorsqu'il pleut, une flaque d'eau reste 3 semaines parce qu'elle ne s'infiltre pas, elle s'évapore.
Oui.
Mais nous allons faire sous ces chemins une structure de 20 cm, une structure qui va absorber toute l'eau qui tombera sur le chemin, parce qu'on fait cela avec un indice de vide de 40% qui va permettre de stocker tout cela. Et enfin, il y a eu le grand débat sur le revêtement. Donc nous faisons deux bandes de 1 mètre de revêtement enrobé après avoir fait venir ici France Nature Environnement, qui a fait son comparatif des différentes solutions, et France Nature Environnement recommande l'enrobé. En bilan global, effet carbone, etc. etc. Donc on a vraiment réfléchi à tous les aspects. Il y a maintenant, et donc tout cela, dans différents types de revêtements, et pour nous, ça va être une grande expérimentation d'un an ou deux, pour voir les conflits d'usage, si le ruissellement est bien stocké, si le nettoyage, parce qu'il pourrait y avoir un peu de boue de temps en temps, mais pas plus que sur une route normale. Donc ça va être un beau lieu d'expérimentation qui est d'ailleurs très bien suivi par le CEREMA et par la DDT des Yvelines.
D'accord, parce que justement, et pendant deux ans, vous allez voir si à l'usage ça fonctionne et éventuellement s'il faut réajuster quelques points.
Voilà.
Et après, l'intention de ces voies, c'est laquelle ? C'est proposer des itinéraires de, entre guillemets, vélo-taf ou c'est plutôt des itinéraires de tourisme à vélo ?
Cette liaison entre trois villages, Bazainville, Richebourg et Gresset, dans Bazainville, Tacoignières, Richebourg, Gresset, Tacoignières a une gare.
Oui.
Et donc, on pourra aller en vélo de la zone industrielle de Bazainville à la gare et réciproquement. Et nous avons déjà une autre piste cyclable de 10 km qui longe une départementale. Donc, petit à petit, on fait du vélo TAF, des infrastructures pour aller à la gare, pour aller à faire ses courses, qui soient confortables parce que le cycliste a besoin du même confort qu'un automobiliste. C'est pas, un automobiliste vient râler à la mairie lorsqu'il y a un nid de poule parce qu'il a abîmé sa jante.
Oui.
Mais en même temps, l'automobiliste voudrait, pour certains, que le cycliste puisse être dans un truc avec de graves calcaires et des trous partout et de l'eau.
Oui.
Donc, quand on va au boulot, on peut y aller en cravate, en vélo.
Oui. D'ailleurs, vous aujourd'hui, vous continuez à pédaler, on voit Monsieur le Maire sur un vélo de temps en temps.
Bien sûr. Moi, je n'habite pas Oudan. Je suis maire de Oudan depuis 1995. J'habite dans le village d'à côté, à 4 km.
Et c'est un trajet que vous.
Je viens en vélo.
Oui.
Je viens à vélo lorsque dans la journée je n'ai pas une réunion à faire à Versailles ou ailleurs.
Oui. Et parce que après, quand vous allez par exemple de Oudan à Versailles, je ne me rends pas compte c'est combien de kilomètres.
C'est 50, c'est 40.
Oui, c'est beaucoup. En fait, Oudan, vous êtes très, très à l'ouest. Vous restez dans les Yvelines, mais vous êtes très, très à l'ouest.
C'est pas ça, c'est que dans une journée, moi, j'enchaîne différents rendez-vous qui peuvent être à Oudan. Ce sont des réunions dans les villages de la petite commune. À 7, 8 ou 10 km, je peux y aller en vélo. Quand ça commence dans la journée à être à 20 ou 30 km, je ne peux pas parce que je dois enchaîner les choses.
Bien sûr. Mais c'est important pour vous, en tant qu'élu et qui porte une politique vélo, de montrer l'exemple et d'être aussi sur le vélo ?
C'est pas seulement pour le montrer, c'est que je trouve ça, pour moi, c'est un instrument de liberté aussi. Moi, j'aime bien le matin si voir un lièvre dans les champs ou dans un chemin, ce que je ne verrais pas en voiture. J'aime bien, j'en fais aussi avec mon épouse. Une des dernières balades, c'est l'avenue verte entre Paris et Dieppe, qui est très agréable, etc. Dans le midi, on a aussi la très belle voie entre Toulon et de Toulon jusqu'à
hier.
Maxime,
oui, bien sûr,
l'ancienne voie ferrée.
Oui.
Bref. Il n'y a pas de voyage, on n'essaye pas, de même en touriste, de prendre un vélo.
Et ce que je disais quand je vous présentais Monsieur le Maire, vous avez été député, vous avez été conseiller départemental. Est-ce que quand vous étiez par exemple député, le vélo n'avait aucune pertinence dans votre quotidien à ce moment-là ?
Non, c'était... Bon, mon histoire va au-delà de cela, puisque j'ai été aussi président de l'Association européenne des voies vertes.
Oui. D'accord.
Et j'ai été dans le conseil d'administration de l'association des départements cyclables.
D'accord. Donc vous avez une vraie culture vélo que vous portez véritablement.
Un portage de plaidoyer aussi.
Oui, donc, bien sûr.
J'ai été aussi coordinateur de l'action du vélo au niveau français. Je suis un peu à l'origine du schéma national des véloroutes et voies vertes.
Okay.
Donc c'est une histoire. Vice-président du département des Yvelines, j'ai lancé à la demande du président Bédier le schéma cyclable des Yvelines. Et quelque part, nous nous retrouvions à l'Assemblée, tous bancs confondus, nous étions une quinzaine de députés de tous bords, à pouvoir porter les propositions qui nous étaient présentées par ce qui s'appelait alors le Club des villes cyclables ou l'Association des départements cyclables.
Oui, qui vient de changer de nom, qui s'appelle désormais le Réseau Vélo et Marche. Chers auditeurs, chères auditrices, on va pas faire de pause musicale cette semaine parce qu'on est avec Monsieur Tétard, qui a plein de choses à nous dire. On va revenir un peu là-dessus pareil. Donc, Monsieur Tétard, depuis un moment, et vous avez été à l'origine notamment du schéma national cyclable, aujourd'hui, j'ai presque envie de faire un peu un pas de côté. Quel regard vous portez sur l'évolution de la place du vélo dans les espace politique en France?
Eh bien, il était en progression complète dans les politiques de l'État jusque cette année,
oui.
Avec fonds verts, avec des encouragements en tout genre, mais on sent une régression totale qui n'est pas liée qu'à aux difficultés budgétaires. J'ai eu ces critiques ici dans le pays d'année où effectivement les opposants à cela disaient tu ferais mieux de, tu te rends compte 200 000 euros du kilomètre, tu ferais mieux de mettre ça dans les EHPAD,
oui.
que dans le vélo. Bon, nous avons un défi ici, c'est que notre plan climat, nous venons d'approuver notre plan climat, le plan climat met la mobilité comme le responsable numéro un de nos émissions carbone et c'est là-dessus qu'il faut agir.
Oui.
Bon, alors. Je sens qu'il y a une régression là-dessus, que ce soit sur les ZFE, etc. Il faut tenir bon maintenant. Il y a une régression sur beaucoup de non pas de principes de précaution, mais nous étions plus dans le principe de précaution, nous étions
dans l'action. Dans,
finalement, l'atténuation de différentes de différents facteurs évidents de risques pour l'avenir.
Oui.
Et le vélo fait partie des choses. Alors maintenant. On atteint un moment où la part modale du vélo, bon, elle était traditionnellement très forte à Strasbourg, etc. À Paris, à chaque fois qu'on va à Paris, c'est merveilleux de voir tous ces vélos. Mais quel bordel!
Oui, mais ça, c'est. Est-ce que c'est.
Donné, il va falloir, à un moment donné, peut-être que les cyclistes eux-mêmes vont être la cause d'une hésitation ou de regret de certains élus ou d'une autre partie de la population.
Alors, est-ce que, quand vous dites, et j'entends hein, ce que vous dites, quel bordel, de mon point de vue, malgré tout, quand je vais pédaler, alors je pédale au quotidien dans Paris, et ça m'arrive de pédaler à Strasbourg, Paris, je suis bien d'accord, c'est quand même très compliqué, et c'est, pour reprendre vos mots, et ça me va bien aussi, c'est quand même le bordel, à Strasbourg, c'est quand même mieux organisé, c'est plus clair, c'est plus calme, on sent qu'il y a une culture et que le vélo est rentré. Est-ce que vous pensez pas que c'est une question de phase de transition malgré tout, qu'à un moment donné...
Et les infrastructures ne sont pas encore totalement terminées à Paris.
Oui.
Mais on sent bien que quand même, il y a toute une partie de pratiquants de la bicyclette, de pratiquants de la trottinette et des automobilistes qui restent à éduquer.
Oui. Bien sûr. Et alors justement, à votre niveau, quand on est aujourd'hui maire de Houdan, vous me parliez tout à l'heure, vous avez posé la question à quelles conditions vous me remettriez sur un vélo, il fallait faire des infrastructures cyclables et protégées, etc. Aujourd'hui, il y a d'autres actions, notamment on va dire de l'éducation. Vous portez des actions un peu comme ça, d'éducation, d'acculturation, pour savoir pédaler, et pour s'insérer, et pour respecter les autres.
Bien sûr, nous allons les amplifier. Au niveau de la communauté de communes, nous allons consacrer environ 30 000 euros par an à ces questions-là, dans les écoles, sensibiliser au fait que... Il y a des slogans très simples que moi j'essaie d'appliquer. Notre plan climat dit qu'il faut passer la part modale du vélo à 12% ou quelque chose comme ça en 2030. Pour cela, on a un slogan, il suffit qu'un déplacement domicile-travail sur 10 soit fait en vélo.
Oui. Et donc voilà.
Les gens me disent, mais l'hiver je peux pas, mais prends de l'avance pendant l'été.
Fais-en deux pendant l'été, évidemment. Mais ça, c'est...
Ta moyenne annuelle sera bonne.
Oui, mais ça, c'est aussi c'est intéressant. C'est qu'il y a... Est-ce que, en tout cas, j'ai la sensation, quand on parle de se mettre au vélo, il y a une sorte d'injonction de la société qui va être de dire, le jour où vous vous mettez au vélo, vous jetez aux orties votre voiture, vous jetez aux orties les clés de votre scooter, et c'est le vélo à la vie, à la mort.
Non. Oui, c'est et le vélo est un des moyens de déplacement en milieu rural qui se conjugue avec d'autres déplacements.
Oui.
Il y a le transport à la demande, il y a le covoiturage que nous développons en même temps. Il y a la part de l'électrique aussi dans les véhicules auto, donc ça aussi. Donc c'est une combinaison de tous les modes. Le vélo ne doit pas être imposé. C'est un des outils qui vont encourager très fortement.
Ouais. Et pareil, une autre question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Tétard, c'est vous me dites voilà, nous, moi, je suis maire de Houdan, c'est une municipalité qui fait à peu près, c'est ça, vous disiez à peu près 4000 habitants.
Oui, mais la communauté de communes est intéressante parce que elle fait 36 communes, elle fait 60 km du nord au sud et 30 de l'ouest à l'ouest. Il y a trois gares, il y a trois collèges, il y a des zones d'activité. Et on se rend compte aujourd'hui que la mobilité est un frein à l'embauche chez nous.
Oui.
Et donc, parce que quelqu'un vient jusqu'à la gare de Houdan, ensuite comment il va jusqu'à l'usine ou l'établissement qui est à 2 km ?
Eh bien, s'il n'a pas de solution au vélo, ça peut être potentiellement compliqué, à moins de mettre des transports en commun.
Certaines entreprises sont en train de dire maintenant qu'il y a des liaisons sécurisées, je veux bien acheter une flotte de vélos pour mes employés, à condition qu'il y ait des casiers sécurisés aussi pour la nuit sur les gares.
Oui. Et donc ça, c'est aussi des choses.
En train de monter toute cette chaîne de.
Donc ça veut dire que vous écoutez, vous demandez aux citoyens qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que vous puissiez vous remettre au vélo, et vous faites la même démarche auprès des entreprises. De quoi vous avez besoin pour qu'on puisse vous accompagner?
Oui, parce qu'il faut créer l'infrastructure. L'infrastructure n'est pas le cœur de la réussite.
Non.
Il faut la réussite, mais c'est toujours la même chose. On vous dit, mais on voit pas de cycliste, c'est pas la peine de faire une piste. Je réponds souvent que on ne prend pas la décision de faire un pont sur une rivière en fonction du nombre de mecs qui le traversent à la nage.
Non, a priori non.
A priori non.
Sauf peut-être pendant les périodes de canicule.
on a remis la scène en fonction, mais donc quelque part, à partir d'une infrastructure qui est absolument nécessaire. Il faut recréer un écosystème vélo.
Ouais. Et je voudrais quand même. Allez-y.
Une section du mouvement de la bicyclette vient se créer sur le pays houdanais. On a quelqu'un qui répare les vélos à domicile. Même le curé de la paroisse va faire ses messes en vélo.
Eh ben écoutez, il y a pas très longtemps dans Rayon Libre, j'ai eu un prêtre qui était en cuissard sous sa soutane. Donc oui, les prêtres aussi pédalent. Et peut-être que quand ils font des communions solennelles, ils célèbrent des communions solennelles, ils incitent les parents à dire offrez-leur un vélo plutôt qu'autre chose. Peut-être.
Mais je veux dire, maintenant il faut créer l'écosystème.
Bien sûr. Mais je voudrais.
Réparation, location, etc.
Je voudrais revenir sur cette notion de communauté de communes. Alors aujourd'hui, la communauté de communes, pour pouvoir porter des projets vélo et pour pouvoir aller chercher des subventions et des programmes comme à vélo, qui sont les programmes de l'ADEME, il faut passer par le niveau de la communauté de communes, parce que la mairie d'Houdan, elle a pas les moyens, ni ressources, ni financières, ni techniques, ni humaines pour porter.
La mairie d'Houdan, moi, dans la ville elle-même, j'ai fait tous les chemins les plus courts parce que je considère que le vélo et la marche à pied, leur principe de base, c'est le chemin le plus court.
Oui.
Et les doubles sens cyclables font partie des chemins les plus courts.
Oui.
Mais pour le reste, la commune de Houdan n'a absolument pas vocation à intervenir sur le territoire des autres communes.
Non, bien sûr.
Et donc, une liaison entre deux communes, en gros, c'est la communauté de communes qui prend toute l'infrastructure entre les deux communes jusqu'à l'entrée dans l'agglomération.
D'accord.
Bon. Ouais. Et qui ensuite l'entretient, parce que le problème n'est pas de faire une infrastructure, c'est de l'entretenir.
On arrive à la fin de l'émission, on va écouter la chronique d'Abel Guggenheim, on retrouve Jean-Marie Tétard juste après, qui est le maire d'Houdan, juste après pour une dernière question. Jean-Marie, vous avez 3 minutes, le temps de la chronique d'Abel, pour réfléchir à cette question. Quel atout principal a le vélo sur un territoire comme Houdan? Mais avant d'y répondre, vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.fm et c'est le moment d'Abel Guggenheim. Abel, c'est à toi.
Bonjour. Vous parlant la semaine dernière d'un accident grave ayant coûté la vie à 2 personnes, dont un cycliste, je relayais le message de l'association cycliste locale, observant que, tout de suite après le drame, la presse avait abondamment diffusé l'information, non étayée, que ce cycliste aurait traversé au feu rouge, entraînant une focalisation sur l'hypothèse unique que le cycliste portait seul la responsabilité de la collision. Vous la connaissez évidemment, cette présomption de brûlage de feu par les cyclistes. Je n'ai pas fait l'expérience, mais je ne serais pas étonné si on interrogeait une intelligence artificielle sur la principale activité des cyclistes, qu'elle réponde « brûler des feux rouges ». Car si on se réfère aux principaux médias, et encore plus aux réseaux sociaux, on peut avoir l'impression qu'en se rasant ou en se maquillant le matin, chaque cycliste n'a pour principale préoccupation que de réfléchir à un itinéraire lui permettant de brûler le maximum de feux rouges. Je l'ai déjà dit à ce micro, mais c'est tellement paradoxal que je ne peux m'empêcher de le répéter. Les piétons, qui sont la principale source de transmission de ce préjugé, considèrent dans leur écrasante majorité comme parfaitement légitime de traverser, quelle que soit la couleur de la petite figurine qui leur fait face, une rue dans laquelle on ne voit aucun véhicule arriver, c'est-à-dire de commettre exactement la même infraction que celle qu'il ou elle reproche aux cyclistes de commettre. Et ça vous est même peut-être arrivé qu'un piéton vous interpelle, par exemple, alors que vous passez en toute légalité un feu muni d'un panonceau M12, vous autorisant à passer dans une direction indiquée sur ce panneau, alors que la personne qui vous interpelle est elle-même en train de traverser avec en face d'elle une figurine qui est au rouge. Cette réputation faite aux cyclistes de constamment brûler les feux rouges provient aussi souvent d'automobilistes, alors même que leur comportement est tout à fait discutable à cet égard. Il est vrai que globalement, les automobilistes respectent plutôt les feux rouges, mais il n'en est pas du tout de même des feux oranges, pendant lesquels quasiment tous se comportent en contradiction pleine et entière avec le code de la route, en accélérant pour passer le plus vite possible, alors qu'il leur est instamment prescrit de s'arrêter. Sans parler de cette couleur délicieusement surnommée l'orange mûr, c'est-à-dire quelques secondes au début du feu rouge pendant lesquelles on maintient avec constance la conduite infractionniste expérimentée pendant la phase orange. Il y a aussi le sujet des sas vélos, cette zone agrémentée de logos vélos situés entre deux lignes d'effet de feu qui oblige expressément les véhicules motorisés à s'arrêter avant la première et qui est le plus souvent considérée comme une obligation facultative. Les véhicules motorisés qui franchissent cette ligne ont bel et bien brûlé le feu rouge correspondant, et là aussi, il a pu vous arriver qu'un automobiliste arrêté sur un sas vélo vous fasse une observation alors que vous passez le feu muni d'un panonceau M12 qui va bien. Mais nous-mêmes cyclistes, sommes-nous parfaitement clairs, en particulier par rapport aux piétons ? C'est le sujet que j'aborderai lundi prochain.
C'était Abel Guggenheim. Merci Abel. Donc Monsieur Tétard, vous avez eu 3 minutes pour réfléchir à cette question. Quel est selon vous l'atout principal pour le vélo sur un territoire comme Oudan ?
Je voudrais d'abord saluer Abel Guggenheim, qui est un vieux complice des années de militantisme pour le vélo.
Eh ben, il va prendre ça avec plaisir.
Par rapport à la question que vous posez sur la place du vélo, je crois qu'elle est à construire. Elle n'est pas naturelle.
Oui.
Elle était le réseau viaire d'une zone rurale est souvent le terrain de jeu des cyclistes du dimanche en peloton sur les nains. Ce n'était pas le vélo travail. Je crois que la grande révolution, c'est le vélo assistance électrique qui permet d'envisager maintenant de se déplacer de au moins 10 km. Ce n'est pas un problème de faire 10 km en vélo assistance électrique sur des itinéraires sécurisés et continus. Et si je fais 10 km autour de chacune de nos gares, c'est environ 13 000 habitants qui sont dans les 10 km.
Ouais.
Donc on peut faire son marché.
Bien sûr.
Quelque part, il faut prendre une part du marché des déplacements grâce aussi au vélo électrique. Mais comme il vaut plus cher, il faut le sécuriser dans ses stationnements, etc. Bref, il y a tout un ensemble que vous connaissez aussi bien que moi. Ce n'est pas l'infrastructure qui fait la fréquentation. Il faut tout, de la sensibilisation. Nous avons instauré à la communauté de communes la prime mobilité pour les personnels, etc.
Oui.
Tout ça, ça va venir.
Oui, et puis comme vous disiez aussi, il faut accompagner les
infrastructures qui permettent de dire aux gens, vous pouvez maintenant aller en sécurité.
Et puis comme vous le disiez aussi un peu plus tôt, accompagner notamment aussi les employeurs locaux qui expriment une envie, et il faut pouvoir les accompagner. Merci beaucoup.
Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, ça ne devient pas le vélo taf pour 3 bobos qui vont être qualifiés de bobos. C'est les employeurs qui disent, c'est un un élément d'attractivité pour l'embauche.
Oui, et puis c'est aussi un... Mais ça, c'est encore un autre sujet, c'est un argument RSE, c'est un argument QVT. Enfin bref, le vélo a quand même aussi plein d'intérêts et plein d'avantages au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, monsieur Tétard, pour votre temps et votre présence au micro de cette émission, de ce Rayon Libre. Ce Rayon Libre est terminé. N'oubliez pas, je le dis à chaque fois, toutes les semaines, une journée sans pédaler est une journée gâchée. J'ai l'impression que Jean-Marie Tétard n'est pas là pour me contredire. Restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h30. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires. Et monsieur Tétard, je vous souhaite un excellent été.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Thank you.